Je vais vous demander voilà, de savoir si certains d'entre vous auraient des questions, peuvent interpeller les intervenants sur les différentes thématiques. Alors, j'arrive.
Alors, moi, j'ai plusieurs questions que j'ai prises au fil pour plusieurs personnes. Donc, on va commencer dans le début, on va faire dans l'ordre chronologique des interventions. Donc, pour la première intervention, je voulais savoir, on a parlé justement que les entreprises louaient justement les bâtiments pour justement que leurs employés puissent venir dedans. Est-ce qu'il y avait aussi Yacinka, Peugeot, je ne sais pas, j'ai pas bien compris si Renault le faisait aussi. Mais en quelle année il le faisait ?
Yacinka, Peugeot, c'est la même entreprise, et bien sûr Renault aussi, oui, oui.
Et c'est dans les mêmes années, les années 60-70, c'est ça ? D'accord. Qui faisait les allers-retours, qui faisait les navettes, justement. Après 1er janvier, puis c'était juste pour la date du 3 août. La date du 3 août, ce serait quelle année, en fait, pour la signature, c'est 59, c'est ça, 1959 ?
Oui, c'est ça.
Bonjour à vous. Vous dites que je suis habitant de Mantes-la-Jolie depuis pas mal d'années maintenant. Je voulais savoir, par rapport à toutes les vidéos, les différents intervenants, moi j'étais en train de réfléchir un petit peu par rapport à l'aspect sociologique des constructions de ces ensembles. Et c'est vrai que ça n'a pas été abordé ce soir, et j'aurais bien aimé justement qu'on puisse en parler. Entre autres, j'ai entendu Mam qui parlait des émeutes de 91, tout ce que ça a pu apporter justement, ces grands ensembles, ces habitants, toutes les communautés mélangées. Et c'est quelque chose que j'aurais bien aimé entendre, quoi. Du moins cet aspect-là, sociologique. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. C'est pas obligé de me répondre, mais c'est justement...
Merci. Ah, oui, alors, normalement, ça devrait fonctionner. Non, mais je vais te répondre. Je vais te répondre forcément parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est quelque chose que je vis toujours. L'idée, effectivement, ça a été effectivement une multitude, effectivement, de populations qui sont arrivées. On parlait tout à l'heure, effectivement, au tout début des années 60, quand le Valfouré, le premier bâtiment qui sort de terre, c'est le bâtiment rue Arago, c'est-à-dire le bâtiment qui fait face à la mosquée aujourd'hui. C'est un bâtiment qui est extrêmement important, qui a donc accueilli les rapatriés d'Algérie. Puis après, effectivement, il y a eu des couches de population qui sont arrivées, européennes déjà, voilà, les Espagnols, les Portugais, certains venant aussi des îles, des territoires d'outre-mer, et puis la population donc d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne par la suite. Par expérience personnelle, donc moi, mon père, il arrive au milieu des années 70, au foyer, donc Sonacotra, rue de Buchelet, et puis petit à petit, dans le cadre du 1% patronal, on lui accorde un appartement, d'ailleurs des appartements qui commençaient à se vider, puisque un certain nombre, effectivement, de catégories socioprofessionnelles s'en allaient, parce que c'était l'époque de Giscard, la France devait être, enfin les Français devaient être propriétaires de la France, en tout cas propriétaires de leur maison individuelle, c'est l'époque des Chalandonnettes. Et donc du coup, ça laissait effectivement un certain nombre de logements vides et qu'il a fallu combler par quelque chose. Et donc ce quelque chose, ça a été effectivement les ouvriers de Simca, de Renault en particulier, qui ont peuplé ces tours et ces bars. Effectivement, à partir de ce moment-là, il y a une concentration de la population très essentiellement africaine qui arrive. Dans un premier temps, on parle souvent de mixité sociale. La mixité sociale existait à cette époque-là. Il n'y avait pas tant de problèmes que ça, parce que quand on a l'esprit un peu nostalgique, on se dit, tiens, voilà, avant, on n'avait pas de problème, la porte était ouverte pour chacun, il n'y avait pas ces systèmes de portes verrouillées aujourd'hui où il faut toquer pour ouvrir, il y avait déjà les poignées à l'extérieur, et tout, il y avait un système de solidarité qui s'opérait immédiatement. Puis au fur et à mesure du temps qui passe, l'individualisme a pris le dessus, et la méfiance aussi. Moi, je l'ai vu particulièrement parce que c'est vrai que dans mon quartier, notamment à Godot, moi, j'ai vu petit à petit le contexte changer. Les gens se méfiaient les uns des autres, etc. Une certaine population partait parce qu'il y avait encore quelques Français, quelques Portugais qui habitaient encore le quartier. On avait une plutôt bonne relation. Et puis, petit à petit, je ne sais pas forcément ce qui s'est passé. La population part parce qu'elle a la possibilité de partir et on se retrouve entre nous. Et surtout... il y a une barrière qui s'opère. La barrière n'est pas forcément urbaine et ce n'est pas forcément les bars et les tours qui font cette séparation de Mantes-la-Jolie en trois quartiers, c'est-à-dire centre-ville, Gassicourt, Val-Fouré. Même les trois tours qui étaient à l'entrée du Val-Fouré, moi, c'est vrai que je me suis tourné vers ma maman, je disais, voilà, ben, mais pourquoi maman, on a le mur de Berlin en face de nous. Tu vois, parce que c'était l'époque, c'était la mode. On entendait parler du mur de Berlin qui tombe. Je posais la question comme ça, ma mère, elle ne savait même pas quoi répondre. Elle disait, voilà, bon. Et pourquoi on n'est que les Arabes et les Noirs? Je dis, ah ouais, je ne sais pas quoi te répondre, mon fils. Tu vois. Et du coup, ben, on a appris et je vais même te dire un truc, c'est que moi qui voyais et qui sortais de chez moi, et je voyais mes voisins qui étaient Algériens, Marocains, Sénégalais, Maliens, etc., je pensais même qu'en regardant la télévision, les gens étaient des Noirs et des Arabes aussi. Tu vois. Donc, moi, quand je voyais, par exemple, quand j'étais tout petit, je regardais le journal de 13h avec Mourouzi, je croyais que Mourouzi, déjà, c'était un nom qui sonnait arabisant. Tu vois. Moi, pour moi, la télévision, elle était le reflet de ce que je voyais dans le quartier. Puis bon, après, voilà, c'était l'esprit que j'avais quand j'étais petit. Mais pour simplement se dire, effectivement, que cette mixité, on l'a perdue. On ne sait pas trop comment. Et puis, les événements de 91, alors on parle souvent des émeutes de 91, mais il faut parler aussi de la pré-émeute qu'il y a eu à la fin de l'année 90. Au niveau du centre commercial, qui a commencé à être pillé pour des raisons X et Y que je ne vais pas repréciser ici, parce que c'est trop long. Mais ça mériterait effectivement qu'on en parle un jour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut forcer la main à ce que cette mixité sociale revienne. Ce n'est pas si automatique que ça. Aujourd'hui, déjà, nous, on a besoin avant tout que l'image s'améliore, qu'on considère que le Val-Fouré est un quartier comme un autre, avec une population qui a envie de s'investir, mais qui a envie aussi d'être considérée, reconnue pour le travail qu'elle fait sur le plan associatif, notamment. Et c'est vrai que l'aspect sociologique, on ne l'a pas évoqué, c'est vrai, on a évoqué plutôt l'aspect architectural, mais je pense qu'effectivement, il faudra aussi, dans nos travaux de recherche, amener effectivement à aller pousser, de savoir voilà, quel a été justement cet aspect qu'on avait, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est une notion que l'on nous rabâche les oreilles à longueur de journée, alors que c'est une notion qui existait bien avant, on vivait en coexistence et il n'y avait pas de souci. Et maintenant, aujourd'hui, on nous l'amène avec un angle aussi voilà, religieux, etc. On est amené à tout mélanger, alors que finalement, voilà, c'est ça, c'est un peu aussi l'esprit humain qui est comme ça. Il faut arriver voilà, à poser les choses et se dire, voilà, vivre ensemble, il faut que l'un et l'autre, nous le voulions pour que ça marche. Voilà. Et c'est vrai que cet aspect sociologique, dans l'association Label Histoire Mantes Val-Fouré, comme avec l'ensemble des partenaires qui sont là, hein, voilà, avec Châteline, avec la ville aussi, on puisse faire vraiment ce travail-là de recherche, parce que maintenant, on a l'outil pour ça, on a une association pour ça, on a des talents, on a des chercheurs, on a Madame Bussière qui fait effectivement un inventaire architectural, c'est bien, mais effectivement, la recherche sociologique, c'est très important. On va essayer effectivement de mener un travail là-dessus, très important.
Porter un petit gravillon à l'édifice. Tout à l'heure, vous avez parlé, Madame Bussière, de construire le Val-Fouré très, très, très rapidement. Moi, je me souviens, mon père me disait, s'il y en a qui se souviennent peut-être, hein, à Rony, on construisait des préfabriqués entiers, et mon père me disait qu'il construisait les tours en un étage par jour. Donc, vous voyez, là, c'est juste, parce que, bon, les anciens... un étage par jour sur une tour, hein, genre Jupiter ou...
Tout était inventé sur place. Enfin, ils ont tout réinventé et c'était le Coignet, par exemple. En effet, il y a eu beaucoup des constructions préfabriquées et donc il y avait des usines et ils venaient se livrer ça sur des gros camions et avec les grues ils montaient ça comme des jeux de construction. Et ça, c'est pour ça que le Val-Fouré s'est fait avec des constructions nouvelles, enfin des méthodes tout à fait nouvelles. Vous avez parlé des chemins de grues tout à l'heure, mais justement ça amenait toutes ces façades, c'était des kits en fait, hein, voilà, et c'est pour ça que c'était monté comme des gens de construction.
Paul Picard, ancien maire de 77 à 95.
Mais lui en 71. Oui, et la question qui a été soulevée là, qui est très intéressante, c'est c'est le peuplement du Val-Fouré. Parce qu'il faut savoir, et il faut se remettre dans l'histoire, alors je ne parle pas de la construction, qui était un modèle de construction. Les gens venaient de l'étranger, il y avait des visites organisées pour voir la construction du Val-Fouré. J'ai vu des cars de gens qui venaient, des étrangers, des architectes, des urbanistes, des grandes sociétés, qui venaient voir comment on montait aussi vite. On partait le matin, j'étais enseignant au Val-Fouré, on partait le matin, quand on rentrait le soir, il y avait un ou deux étages, un étage de fait, puisqu'il fallait que ça sèche, un étage qui était fait de presque par tous les immeubles du Val-Fouré. Un étage presque par jour. C'est de la folie. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'était le côté moderne. L'envers du décor, c'est que, vient de dire Christine Tard, on fabriquait les panneaux chez Coignet, entre autres, pas qu'à Coignet, mais chez Coignet, à Rony, on fabriquait des panneaux, mais les panneaux étaient en béton. C'était du béton armé. C'était des cartes, un jeu de cartes, on montait comme un château de cartes, et c'était des panneaux béton. Alors, c'est très rapide à monter, sauf que le jour où on a voulu, pour des raisons sociologiques, toucher au logement parce qu'il commençait à, il fallait les agrandir et tout ça, on ne pouvait plus. C'est des panneaux intouchables. Tous les murs étaient porteurs. Donc on ne pouvait plus les bouger. Et donc ça a figé le Val-Fouré. Et là, je reviens à ce que vous, la question, ou en tout cas votre intervention, monsieur. C'est la sociologie du Val-Fouré. Le Val-Fouré a été conçu, vous l'avez dit, dans les années 40, enfin pas le Val-Fouré, mais la modernité de Mantes, dans les années 40, même un peu avant la guerre, prolongé et le grand ensemble qui ne s'est pas fait, le Val-Fouré se crée avec un maire très moderne qui pousse à la modernisation, mais c'était fait pour qui, le Val-Fouré? Il était fait pour, un, à la suite de la guerre, bien évidemment, les habitants de Mantes qui avaient besoin d'être logés. Deux, pour le développement économique, parce que la vallée de la Seine était un grand pourvoyeur industriel et qu'il fallait loger les ouvriers qui allaient venir de Bretagne. Et puis quelques-uns d'Espagne, du Portugal après, mais d'abord des Français venant de Bretagne, etc., qui venaient travailler. Le Val-Fouré a été conçu pour une population française, c'est-à-dire la famille classique française, un ou deux ou trois enfants au maximum. Et on construit en béton. Et donc, tout cela fonctionne. Je ne parle pas des problèmes économiques, etc., qui ont fait qu'on a hyper-densifié le Val-Fouré. Départ, 5300 logements. Moitié HLM, moitié accession. On est passé à 80 et quelques, 90% de HLM. Et le problème, c'est que dans les années, le dérapage financier a densifié le Val-Fouré, parce qu'il fallait absolument payer les traites. Et donc, pour payer les traites, eh bien, il fallait vendre des mètres carrés en plus. Et une grande partie des immeubles du Val-Fouré, notamment les tours, n'existent pas dans les plans de départ. Vous n'en avez que quelques-unes qui sont des signaux urbains. Le reste, ce sont des immeubles de 3-4 étages, avec beaucoup d'espace. Et on a s'est mis à construire des tours en plein milieu des espaces, manger les espaces pour faire des tours, pour pouvoir boucler les fins de mois. J'en sais quelque chose, puisque avec Michel Sevin en 71, j'étais élu en 71, et j'ai été adjoint chargé spécialement du Val-Fouré. Et c'est là que j'ai mis le nez dans les comptes du Val-Fouré et que j'ai eu des problèmes avec le maire de l'époque, Jean-Paul David. Donc, et ensuite je l'ai remplacé, donc bon. Il se trouve qu'il y avait un problème de population aussi. Jusque dans les années 70, le Val-Fouré était occupé, entre guillemets, à 90% par des familles françaises qui correspondaient aux premiers, je dirais, vagues de logements du Val-Fouré, etc. Quelques familles portugaises et espagnoles, quelques Italiens, mais c'était plutôt portugais et espagnol, et puis très peu d'Africains, d'Afrique du Nord, etc. Très peu. Il y avait des pieds noirs, etc. c'était dans les années, jusqu'en dans les années 70. Et à partir des années 70, il y a eu un problème mondial économique où on s'est posé pour poursuivre la croissance mondiale. Comment poursuivre la croissance? On était dans les 30 glorieuses. Et donc les États-Unis, l'Europe ont choisi de multiplier les équipes sur les entreprises. Parce qu'on a passé, on est passé au 3-8, alors que le Japon a robotisé. C'est un contexte mondial. Et en Europe, on fait les 3-8, donc on a besoin de main-d'œuvre. Il y a tel plein d'emplois à l'époque. On ne sait pas ce que ça veut dire, le plein d'emplois aujourd'hui. Et donc, on fait venir des travailleurs pour faire le troisième équipe. On n'a pas assez de travailleurs. Et on fait venir des travailleurs, d'où? Eh bien, dans les années 70, il y avait des travailleurs déjà qui travaillaient dans les entreprises, mais qui étaient dans des foyers. Et on fait venir en plus d'autres travailleurs, donc on remplit les foyers, à telle enseigne qu'une partie du Val-Fouré, des immeubles qui étaient en construction, grâce au financement de Renault, je crois, ou de, il me semble, ou de Simca, ont été provisoirement transformés en foyers. Pour les travailleurs, parce qu'ils n'ont pas été livrés en logement, ils ont été des foyers. Et puis, ça a basculé, comme l'a justement rappelé Mamoudou Dia, c'est ça, pardon, excusez-moi, Mamoudou, voilà, je ne vais pas bas, Mamoudou Ba, très justement, il y a eu le changement de politique au lieu d'arrêter de garder les foyers, avec le fait que les hommes seuls repartaient au pays pendant des vacances tous les deux ans, il y a eu un choix politique qui a été fait, sous la pression assez amusante d'ailleurs, à la fois des gens d'extrême gauche, pour être simple, qui disaient c'est scandaleux d'exploiter des hommes seuls, etc., qui ne partent pas en vacances, qui sont exploités, qui vivent dans des foyers plus ou moins, etc., et puis des gens bien pensants qui disaient c'est vrai, ces hommes seuls, il y avait la prostitution, etc., parce que des hommes seuls ils restent deux ans dans des foyers, etc., parce qu'ils partaient tous les deux ans en vacances, donc il y avait une prostitution qui était quasiment organisée, hein. Je ne vous cache pas que j'enseignais dans les foyers, je faisais de l'alphabétisation dans les foyers en tant qu'enseignant, il y avait l'organisation de la prostitution, c'était bon. Donc là il y a deux choses qui sont conjointes. La politique Chalandon, Giscard, Chalandon, les pavillons, voire Magnanville, etc. Et donc, tous ces gens qui travaillaient dans, et qui avaient un emploi qui était plus ou moins cadre, ou d'emploi qui était au Val-Fouré, pour le même prix, ils achètent un pavillon. Et donc, pouf, ils sont partis. En même temps, les penseurs de l'époque, les politiques de l'époque et les grands chefs d'entreprise se rendent compte d'une chose, c'est que tous les mois, ils versaient des salaires à des travailleurs migrants qui vivaient dans des foyers et 90% de l'argent repartait au pays. Et donc une perte sèche pour l'économie française, enfin nationale, puisque le salaire ne restait pas, n'était pas consommé en France. Il partait pour faire les maisons au Portugal, pour faire des maisons en Espagne, pour construire en Afrique, au Maroc, etc. Donc, perte sèche financière, les gérants des entreprises, les ministres des finances, tout ça, disent, le pognon, il s'en va. Donc, comment faire pour qu'ils reviennent, qu'ils restent? Une solution, on fait venir les femmes. Et on fait venir les familles. Comme ça, ils vont garder l'argent ici. Et donc, regroupement familial. Regroupement familial, tout le monde est content, les hommes ne sont plus seuls, ils ont leur famille, c'est très bien, c'est la modernité, c'est normal qu'ils aient leur famille. Et je me souviens des débats, excusez-moi, je suis un petit peu long, je me souviens des débats de l'époque où on disait, voyez, c'est bien, et tout le monde disait, bah oui, c'est logique. Sauf que c'est vrai qu'ils dépensaient 80% du coût de leur argent localement. Et l'argument formidable qui avait été évoqué à l'époque, c'est de dire, regardez tous ces enfants, toutes ces familles, Ces enfants vont aller à l'école. Ils vont apprendre le français. Ils vont parler le français. Et quand ils vont retourner au pays, ce seront les ambassadeurs de la France. Ce seront d'abord des cadres, parce qu'ils vont aller à l'école, ils vont devenir cadres dans les pays, au Maroc, au Sénégal, etc. Ça va être les futurs cadres de ces pays, parce qu'ils auront été formés. Français, parlent français. Ils aimeront la France, parce que c'est la France qui leur a donné la possibilité. Et ce seront nos meilleurs ambassadeurs de la France. Sauf qu'on a oublié une chose, un petit détail, c'est que quand on fait avancer les femmes, elles ne reculent jamais, il n'y a pas la marche arrière. Les hommes, ça peut reculer, les femmes ne reculent jamais. C'est l'histoire de l'humanité. Et on a oublié ce détail. Et le simple détail, c'est que les femmes, lorsqu'elles sont arrivées, elles sont venues avec leurs enfants, ben, elles ne sont pas reparties au pays, en vacances peut-être, mais elles ne repartaient pas au pays, puisqu'elles avaient connu autre chose, et elles voulaient que leurs enfants réussissent autre chose et progressent. Et donc on s'est retrouvés devant une situation ambiguë pour la société française qui n'a pas compris, j'en sais quelque chose, vous en avez payé le prix cher, qui n'a pas compris que les nouveaux arrivants, c'était les Français de demain. Et donc, on fait attention quand on décide de faire venir des gens, on décide d'en faire des Français. Et la société française n'a jamais accepté l'idée que ceux qui arrivaient seraient les Français de demain. Et donc, les a traités, a continué de les considérer comme des futurs. Donc, allait repartir. Et donc, ne les a jamais regardés, ne les a jamais traités, n'a jamais fait l'effort pour les enfants et surtout pour les parents, pour en faire des Français de demain. Et donc, on le paye encore aujourd'hui. Puisque, voilà. Et donc, c'est ce problème-là de changement sociologique. Et naturellement, bien sûr, ces familles ont occupé les logements vacants, et notamment du fait que 80% c'était des logements HLM. Et s'il y a eu des problèmes un peu fous, pourquoi on a détruit des tours, détruire des logements, c'est stupide, c'est parce que le système d'attribution de logements et le système de réservation de logements, de financement des logements, était une histoire de fou. Je ne veux pas ici, parce que là j'en ai pour deux heures, mais sur laquelle je me suis battu. Et c'est que ce sont les entreprises qui étaient quasiment propriétaires et elles logeaient leurs salariés. Et quand les entreprises avaient des salariés ouvriers qui venaient d'un peu tous les pays, Afrique, Maroc, etc., ben, les tours se sont transformées. Et on en a fait des ghettos. Le vivre ensemble et le mixage a disparu alors qu'il existait au début du Val-Forêt. Voilà.
Si je voulais rajouter quelque chose, une précision en ce qui concerne le regroupement familial. Personnellement, moi, je trouve que le regroupement familial, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Si quelqu'un, un Français, s'en va au Brésil pendant 5 ans pour travailler ou 10 ans, il est normal qu'il emmène sa femme et ses gosses. Tout à fait normal et humain. Mais ce qu'a oublié de dire Paul Picard, enfin c'était sous-entendu dans son propos, c'est que dans les années 74-75, les industriels ont commencé à robotiser. Alors avec un temps de retard sur le Japon, comme on l'a dit, un temps de retard sur les autres, mais on a commencé à dégraisser et on a licencié du personnel. Ça a été la même chose dans le bâtiment. Le bâtiment qui employait beaucoup de gens venus d'Afrique ou du sud méditerranéen, enfin d'Espagne ou du Portugal, etc. Le bâtiment, la reconstruction était faite. La construction de la plupart des nouvelles villes ou des nouveaux quartiers était terminée et donc automatiquement, on fabriquait des chômeurs. Et on a fabriqué des chômeurs et des gens qui, donc, une fois qu'ils ont ramené leur famille, sont devenus en précarité financière pour tout ça. Et je crois que c'est tout le problème est venu de là. Hein. Alors, on peut très bien le regretter après coup. Est-ce que sur le moment, il fallait penser et prévoir ça? Je pense que personne ne l'a prévu. Alors, je voudrais rajouter quelque chose, mais là, sur une autre partie du débat, si vous faites l'histoire du Val-Forêt Et si vous voulez reconstituer l'histoire du Val-Fouré sur le plan du patrimoine, par exemple, il faudrait insister pour, enfin, trouver un système pour que les gens qui y habitent comprennent les choses et sachent un certain nombre de choses. Prends un exemple tout bête. Un exemple tout bête. On parlait tout à l'heure, Paul Picard a parlé tout à l'heure des cinq premières tours, qui au départ étaient un signal au centre de cette nouvelle ville, de ce nouveau quartier. Personne actuellement ne sait au Val-Fouré pourquoi il y en a une qui s'appelle la tour Vega, une autre qui s'appelle la tour Neptune, une autre pour la tour Pluton, Mercure ou Jupiter. Bon. En réalité, l'idée qui était venue à l'époque, c'était de donner des noms autour pour que les gens se repèrent, et on s'était dit, enfin la municipalité, le maire, c'est ceux qui l'entouraient à l'époque, s'était dit, après tout, pourquoi pas mettre des noms d'étoiles, ce serait, ou de constellations, ce serait intéressant, et ça donnerait un certain caractère à tout ça. Bon. Et finalement, il n'y en a qu'une seule qui a eu droit à une inscription, c'est la tour Vega. Et vous savez pourquoi la tour Vega? Bon, eh bien, parce qu'au moment des fêtes de Mantes, à l'époque, il y avait des défilés avec des musiciens, des majorettes, des fanfares, etc., etc., etc. Et là-dedans, des gens qu'il fallait nourrir ou qu'il fallait abreuver, comme ça se passait au mois de juin, juillet, tout le monde avait soif. Et on était rentré en relation à l'époque avec un entrepositaire de bière, et pratiquement, il y avait une bière qui s'appelait la tour Vega, parce que pour mettre les lettres, des lettres de 3,50 m dans le haut des tours, si on avait mis Neptune, ça coûtait très cher. Et donc on avait pris le nom de la tour, le nom le plus court, Vega, et qu'on était arrivé à faire payer par le marchand de bière. Et comment le marchand de bière a payé l'installation. Non, c'était pas Champaignement. C'était pas Champaignement. Non. Et donc, si vous. Non, mais c'est des petits détails, si vous voulez, qui paraissent anodins, mais c'est ça la vie d'un quartier. Pourquoi telle chose? Et alors, il y avait eu toute une combine qui avait été montée. La société d'HLM consentait à payer l'électricité, le compteur électrique pour là-haut. Et Vega a payé l'installation, et ensuite, régulièrement, chaque fête de Mantes, des années, de quelques années, parce que ça n'a pas duré longtemps, qui ont suivi, eh bien, il alimentait le défilé en bière et en boissons diverses. Voilà comment. Donc, si vous voulez, et voilà aussi pourquoi les autres tours n'ont jamais eu leur nom sur le tour. Voilà, ça, c'est de la petite histoire. La petite histoire concrète, c'est amusant, c'est anecdotique, ça n'empêchera personne de dormir, mais je pense que c'est quand même bon. Autre chose, vous avez évoqué tout à l'heure la colère que vous avez eue quand vous avez vu la pagode détruite, et la colère, je l'ai partagée, je l'ai même écrit quelque part, je crois, parce que c'est aberrant. C'est aberrant parce que c'était un local. Bon. Mais c'était surtout du patrimoine. Et quand on parle de patrimoine, c'est pas seulement la collégiale ou le vieux pont de Limay ou la tour Saint-Maclou. C'est tout ce qui marque une époque. Or ça, sur le plan architectural, ben, ça fait partie de. Et le Val-Fouré, ce n'est pas seulement des tours en béton. Bon. Et puis. J'en terminerai là parce que je veux pas que ça dure trop longtemps, ça pourrait durer plus longtemps. On a parlé tout à l'heure, Paul Picard a parlé tout à l'heure de la qualité de la construction des immeubles du Val-Fouré. Eh bien, vous allez avenue Foch à Paris, il y a un immeuble qui est sur le côté droit en allant vers la place de l'Étoile. C'est un immeuble où habitait le baron Empin, ça dira quelque chose à certains, c'était le patron de Schneider qui a été enlevé parce qu'il avait une fortune considérable, etc., etc. Eh bien, cet immeuble a été construit exactement de la même manière que les immeubles du Val-Fouré. Alors, certes, les aménagements intérieurs sont peut-être un peu différents, parce que l'avenue Foch, c'est pas... Mais voilà, c'est pour dire que... Non, mais tout ça pour dire que, si vous voulez, l'histoire, ben, c'est fait de grandes choses et de toutes petites choses, et tout ça, ça doit rentrer dans votre mémoire.
Oui. Alors, voilà, on va prendre une dernière question.
D'abord, je suis très content d'être parmi vous. Je me suis régalé. Moi, je suis né à Mantes. Je suis mantais de souche. J'ai vécu à Mantes. J'ai travaillé à Mantes. J'espère mourir à Mantes. Plus tard possible. Hein, plus tard possible. L'époque de la pagode que M. Sevin parle, et je connais très bien M. Sevin, c'est que moi, nous, à cette époque-là, on avait votre âge. Peut-être même plus jeune. Alors nous, quand on nous l'a démoli, on a fait la tronche. Je peux même vous dire que c'est moi qui ai été récupérer le matériel photo, parce qu'il vous était en train de bousiller le matériel, tout ce qu'il y avait dedans, et que j'ai ramené au motoclub. À l'époque, c'était du motoclub, si vous vous rappelez. Et puis, bon, en plus, vous avez devant vous les deux premiers habitants du 2 rue Edgar Degas. On a été les premiers à habiter la tour Edgar Degas au 17e étage, et on est resté dans cette tour tous les deux. Voilà. On était les deux premiers, le 7 juillet 1973, parce que c'est le jour où on s'est mariés. Et on a habité de ces tours, franchement, et on y était très bien. À l'époque, il y avait beaucoup de pompiers de Paris qui habitaient ces tours-là, donc des sportifs. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le bassin d'Aviron, il n'était pas encore arrivé jusqu'au pied des tours. Donc, ils avaient construit indirectement un terrain de foot. Et le soir, on jouait au foot, on attendait le marchand de glace en été, il y avait la girafe et tout ça. Et c'était vraiment très bien. Et je suis vraiment content de connaître, parce que j'ai hâte de connaître la continuité du Val-Fouré, et je voudrais bien prendre contact avec vous.
Bon. En plus, juste un petit détail, on parlait du quartier de la girafe. Alors les gens se disaient, qu'est-ce qu'elle vient faire cette girafe-là? Tout simplement, pourquoi la girafe? Tout simplement parce qu'il y avait un tourniquet, il y avait un air d'enfant avec un tourniquet. Et le tourniquet en haut avait une tête de girafe, la tête de la petite girafe qu'on donne au bébé. Et les gamins allaient à la girafe. Et donc, à la fin, on a appelé le quartier de la girafe. Voilà.
Merci. Merci beaucoup.